musique.
Caravanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry.
Zanashim, domen mie zahraka. Zanashim, domen mie...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour d'un
vive mon pain, vive le soleil. Vive
les oreilles.
Libre.
We'll be right back.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Émission consacrée au théâtre aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler de théâtre. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de parler à nouveau du travail de Sophie Pérez et Xavier Boussiron, que nous avions reçu il y a un an ou deux, plutôt même, à propos de leur précédent spectacle « Oncle Gourdin ». Aujourd'hui, il sera question de leur nouveau spectacle, qui se joue du 16 au 25 janvier au Théâtre du Rond-Point et qui s'intitule « Prélude à l'agonie ». Alors, nous n'avons pas pu organiser, pour des raisons matérielles, une émission dans les studios de Radio Libertaire avec un bon son et puis le temps. Mais Sophie Pérez et Xavier Boussiron nous ont reçus au théâtre pour une interview pas très longue, on n'avait pas vraiment beaucoup de temps. Et on va écouter cette interview, on écoutera également des extraits du spectacle et puis également les musiques de Xavier Boussiron puisque il est musicien. Et à ce propos, vous avez entendu en début d'émission un extrait de la musique de Prélude à l'agonie l'extrait s'intitule Sermon nouveau. On écoutera d'autres extraits de cette musique tout au long de l'émission. Alors c'est difficile de vous raconter la pièce, hein. C'est pas du théâtre narratif, il n'y a pas un début, un milieu, une fin, plutôt une succession de tableaux, et puis un esprit assez chaotique, foutraque, hein, comme on pourrait dire. Et bon, voilà. Pour vous donner une idée quand même, le début de la pièce commence avec un personnage qui dicte ses mémoires. On apprendra qu'il s'agit de Phineas Taylor Barnum, et il est interrompu par sa femme et puis par un ami à lui, et ça donne lieu à une espèce de pièce à la façon de Courteline. Et ces moments-là ont été écrits par quelqu'un qui s'appelle Pacôme Thielman. Voilà, ça, ils en parleront dans l'interview. Et petite, c'est le cas de le dire, précision, il s'agit de nains. Ce sont trois nains qui jouent cette première scène. Et puis après, on va voir un personnage qui vient en disant que il peste après les metteurs en scène, qu'ils ne lui ont pas donné de texte à dire, et puis qu'il va se lancer dans une vraie fausse improvisation, assez rigolote d'ailleurs, on entendra un extrait. Et après quoi, après ça s'enchaîne avec des scènes assez burlesques, je sais pas comment dire. Le mieux c'est d'aller voir. Je vous propose d'écouter le début de l'interview de Sophie Pérez et Xavier Boussiron. Donc ça se passe immédiatement après le spectacle. Donc pas trop de recul de ma part, hein. J'ai peut-être pas posé les questions après. Je me suis dit tiens, j'aurais pu leur demander ça et ça, mais là c'était vraiment à chaud. Et puis, il n'y a pas un super son, il n'y a pas encore une fois, on était dans les conditions qui ne sont pas celles du studio de Radio Libertaire. Hop, c'est parti.
Est-ce que tu nous entends? Oui, vas-y Sophie.
Ouais, je suis sûre que ça, je vois des petits machins qui bougent. Ouais.
Alors, c'est Christophe pour Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Alors... Bonjour Sophie Pérez.
Bonjour Christophe.
Xavier Boussiron.
Bonjour Christophe, je suis très content de vous retrouver.
Ouais.
Ah ouais, bah merci. Merci. Donc on sort de la générale, de Prélude à l'agonie. Eh bien, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de ce que je viens de voir?
Bah non, c'est vous qui allez le raconter.
Oui, certes. Oui.
On se dit putain pourvu que les gens nous racontent après ce qu'on a fait.
Ah bah on n'y manquera pas. On n'y manquera pas. Bah.
Non, alors on peut dire de quoi ça part en tout cas, parce que c'est vrai que la façon de travailler, elle est. Il y a une sorte de méthode à ce chaos. Et donc déjà les thématiques, on est parti du western, on a collé à l'histoire du western les mémoires de Barnum. Ouais. Et ce que raconte l'acteur au début sur l'histoire d'Ivy Island, qui est une vraie histoire en fait, qui est vraiment l'histoire de Barnum petit. On lui avait promis une terre, on lui avait dit qu'il serait un héritier d'une terre fantastique qui s'appelait Ivy Island et en fait qui n'existait pas, qui était un espèce de marécage saumâtre Et donc on a mêlé l'histoire de Barnum sur l'histoire de la conquête, mais de la conquête du plateau en fait. Donc, ouais. Donc voilà, on est parti de ça. Et donc là-dessus, on s'est dit qu'il faut un squelette. Donc on a un gros squelette de masque de Commedia dell'arte. On a une porte de saloon.
Ouais.
On s'est dit, on a vu une peinture de Géricault. On s'est dit qu'il faut le cheval mort de Géricault. Et après, l'idée du prologue, c'était en partant de Barnum, de le... parce que quand il y avait Courteline en France, aux États-Unis, il y avait les cow-boys.
Ouais.
On s'est dit, c'est assez marrant de penser au petit drame bourgeois, rigolo, à la Courteline, pendant que les cow-boys décimaient les Indiens. Mmh. Donc on a fait customiser un Courteline par un auteur qui n'est pas Paco Tillemans.
D'accord, c'est ça.
Voilà.
Je voyais pas de... Parce que j'ai lu un petit peu, je suis renseigné sur Internet, je voyais pas... Qu'est-ce qu'il venait faire dans l'histoire, lui?
Et en fait, il a écrit le... Ah, mais
il c'est
a costumé...
un pas comme... ouais.
Donc il a écrit la petite pièce façon Courteline, l'histoire de la fille qui raconte le carnage dans son ranch où elle mangeait avec ses parents,
ouais,
et tout ça.
Ça c'est...
Voilà, et tout le prédicateur à la fin.
D'accord. Ah oui, ok. Et oui, donc c'est à la façon de Courteline. Moi,
le prologue, oui.
Ah, ouais. Ah, d'accord.
Ouais.
Qui est quand même interprété par des mains.
Ouais. Et en fait, l'idée, c'était... on s'est dit, je disais à Xavier, il faut que ce soit comme une sorte de cauchemar, tu vois, un truc où il y a un problème d'échelle, tout, tu vois, et sur les histoires d'échelle, de conquête, des grands espaces, et avec l'histoire de Barnum à côté. Et donc, c'est la première fois qu'on fait du vrai théâtre, avec des portes qui claquent, du texte.
Ah d'accord, à l'entrée de la servante,
ouais.
À propos d'échelle, ouais, c'est quand même assez réussi. Ouais.
Quelques jours après ma naissance, mon grand-père, en considération de ce que je prenais son nom, m'avait fait don d'une certaine étendue de terrain connue sous le nom d'Ivy Island. Je n'avais pas encore atteint ma quatrième année qu'il m'apprit que j'étais propriétaire. Et je suis certain qu'à compter de cette époque, il ne se passa pas 8 jours de suite sans que j'entendis parler de ma propriété. Mon grand-père, surtout, ne manquait jamais l'occasion de dire à tout le monde que j'étais l'enfant le plus riche de toute la contrée, puisque je possédais tout Ivy Island, la ferme la plus riche du Connecticut. Nos voisins m'entretenaient dans ces idées de grandeur et me répétaient souvent que j'avais bien de la bonté, riche comme je l'étais, de condescendre à jouer avec leurs enfants, moins bien traités par la fortune. Ces allusions continuelles à la terre d'Ivy Island durèrent plusieurs années, tant et si bien que je pris ma propriété au sérieux et j'accusais la lenteur du temps. Il me tardait d'arriver à ma 21e année pour enfin jouir de cette fortune de Nabob. Plus d'une fois, il m'arriva de promettre à certains camarades, en échange d'un service rendu, une fraction d'Ivy Island, qui devait les rendre riches à jamais. Mais hélas, que la fortune est changeante. Je devais bientôt en faire l'expérience et tomber du fait de mes illusions dans la triste réalité. Un jour d'été, en 1822, j'avais 12 ans et je demandais à mon père la permission de visiter ma propriété d'Ivy Island. Il consentit volontiers à ce que Edmund, notre majordome, m'emmène avec lui. Je dormis à peine pendant ces 3 nuits. Ma joie n'avait pas de borne. Je pensais que, comme à Moïse, il m'allait être donné de voir enfin la terre promise. Les visions dorées qui depuis longtemps me trottaient par l'esprit au sujet de ce pays de Cocagne prirent une telle intensité que ce ne fut bientôt plus assez pour moi me figurer une terre aux rivières de miel et de lait. J'y vis encore s'ouvrir à mes yeux des cavernes resplendissantes d'émeraudes, de diamants et de 1000 autres pierres précieuses. Si je ne m'étais pas nommé Phineas Taylor Barnum, je n'aurais jamais été le propriétaire d'Ivy Island.
Alors bon, j'espère que ce n'est pas ma femme. Oui, ben une minute, mon Dieu!
C'est toi.
Eh bien, en voilà du mystère. Tu es en plein œuvre noire?
Du tout, tu aurais chevillé la bobinette et poussé le verrou, étant pressé par ma copie autobiographique et craignant qu'on te dérange. Entre!
Ferme vite la porte, que l'inspiration ne se sauve pas comme un coyote des sables.
Il y a toujours quelque chose de merdique à me servir, quoi. On n'a pas marre de me rabaisser?
Là là, on n'a pas idée aussi de se donner de l'importance au point de raconter sa vie. Tu te prends au sérieux la parole? Oh mon chéri. En tout cas, je n'ai pas le ridicule de me confondre avec Lord Byron.
Ne sois pas méchante par système. Hein? Oui, tu as les péchés que je me confonde avec Lord Byron. Je t'explique que mon travail...
Ton travail?
Non mais dis donc, hé oh, t'es malvenu de me jeter au nez. Si tu crois que je le fais pour mon plaisir, tu te trompes.
Oh là là! Je vais appeler le père Lapichotte. Car si tu crois faire ton petit boulot de scribe pour le plaisir de Belzébuth, tu te trompes encore bien davantage.
Quel singulier agrément peux-tu prendre à me dire que des choses qui me déchirent le visage voyant l'intention de le faire? Attention, nous verrons bien celui de nous deux qui rira le dernier. Vas-y, mollo, mon petit locum.
Mollo?
Hé, hey, je te dis d'y aller, mollo. L'heure est proche.
Proche de quoi?
Oh, sais-tu ce que tu me rappelles?
Et toi, l'absinthe, la catastrophe,
oui, ça suffit, ça suffit. C'est prodigieux. Mais la pierre des mots tombée du front du Lucifer à la place de l'œil. Mais dis-moi, tu serais pas en train de venir m'enrouler les cordes à piano, toi, par hasard?
C'est probable.
C'est probable, oui. Alors, tu désires?
De l'artiche.
T'en as déjà plus?
Ben non, quelle question. Oh. Nous sommes raides. C'est le début du mois. Il n'en peut plus.
Bah, c'est un froidite. Horreur est proche. Et réglons les petites tombes et réglons les petits comptes. Allez.
Tu n'as plus de sous.
Un, deux, trois, quatre, cinq. Tu peux compter dans ta tête, s'il te plaît. Bon, allez. L'affaire est faite. Allez. Ma femme vit devant les marchandises, mon petit bigorneau. Allez, vite.
Merci, mon chéri.
Oui, oui. Allez, vite. Right now. Right now. C'est bien maintenant.
Voilà, on vient d'écouter le début de la pièce Prélude à l'agonie, avec notamment l'acteur Christophe Fluder. Alors c'était pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de la pièce, mais à vrai dire c'est un peu trompeur, puisque là on a encore une pièce narrative, hein, il y a une histoire, et ce qui va bien entendu assez rapidement partir en vrille. On a les deux aspects hein, dont on parlait, c'est-à-dire l'aspect, la biographie de Barnum, d'un côté avec un travail sur la voix, hein, une voix assez avec de l'écho et tout ça, et de l'autre côté le théâtre de boulevard, où l'acteur change complètement de façon de dire son texte, et c'est cette partie écrite par Pacôme Thielman à la façon de Courteline. Je vous propose d'écouter la suite de l'interview de Sophie Pérez et Xavier Boussiron. Et alors, sinon, j'ai lu aussi qu'il y avait des auteurs, donc j'avais pas compris que c'était à la façon de Courteline. J'ai lu, je sais plus sur quel site, qu'il y avait d'autres citations d'auteurs.
Bah en fait, quand on travaille, quand on commence une pièce, on a tout un... Il y a plein de textes qu'on lit, puis il y a des choses qu'on écrit, nous, avec les impros des acteurs aussi.
Ouais.
Et il y a tout un corpus d'objets, d'images, de textes. Et là, je sais qu'on était parti sur... je sais même plus.
Bah, on était parti sur des... Moi non plus, je sais plus, d'ailleurs. Parce que ce qui est toujours assez drôle, c'est que l'exégèse de la pièce, il faudrait la refaire. Moi, quand je les revois, tu vois, il faut relire la pièce et puis retrouver les références qu'il y a dedans, parce que c'est vrai qu'au début il y a beaucoup de choses. Il y a des auteurs américains, mais ça, tu vois, moi j'avais relu comment il s'appelait, McCormack, Brottigan, Sanctuaire, comment il s'appelle, pas Faulkner, j'ai un trou. Le type qui doit écouter l'émission, il se dit Sanctuaire, c'est Faulkner. Donc c'est vrai que ça fait une espèce de compost,
ouais.
De compost démarrage qui est comme C'est comme quand tu cherches une mélodie, tu vois. C'est-à-dire que tu as toutes les notes à ta disposition pour pouvoir la mettre en bas.
Ouais, mais quand vous... Enfin, c'est le... Comment ça se construit, c'est ça qui...
Quand ça, ça faut pas le dire, ça faut pas le dire, parce que tu...
Si, parce qu'il y a une sorte
de... Parce qu'on parle que de ça, ce qui est marrant, c'est le sens que prend la pièce. Tu vois, ce qui après, comment ça se construit, c'est quand tu dis... Si tu dis à David Bowie, mais comment t'as fait ton morceau, tu vois, quand tu dis ça devient complètement idiot. Parce qu'il a fait le morceau exactement comme les autres, sauf que le résultat est légèrement différent. Et c'est vrai qu'il y a une méthode... dont on a beaucoup parlé jusqu'ici, tu vois, qui mélange l'improvisation, la référence. C'est comme une espèce de carte un peu... C'est pas une carte du tendre, c'est une carte du bordel, quoi.
Ouais,
tu vois,
ouais.
Et c'est en dérivant à travers toutes ces choses-là qu'on prépare d'abord avec Sophie, et bah, qu'on arrive à mettre en place après avec les comédiens des séances d'entraînement, je dirais. Tu vois.
Quand même, le premier truc que tu dis, Sophie, tu parles du décor. C'est marrant, quand même. Tu parles du décor, du masque, du cheval, tout ça. Enfin, le premier truc dont tu parles, c'est ça.
Ben, c'est vrai qu'on vient plutôt... Ben, Xavier vient des Beaux-Arts et... Et moi, je viens des arts plastiques, j'ai une formation de scénographe, mais c'est vrai qu'en fait... C'est Fellini qui disait un studio de cinéma, c'est une grosse boîte à remplir. Et c'est vrai que moi, au théâtre, on bosse beaucoup en maquette. Et avant de mettre les acteurs dedans et en répète, on se dit à quoi ça va ressembler, ce nouveau machin, quoi. Et c'est comme des gros objets de théâtre, en fait. La pièce même. C'est-à-dire que tu te dis, tu vois, dans le désert, il y a les cadavres, les squelettes. Donc on se dit, tiens, ça va être un gros masque de Commedia dell'arte. Après, on se dit... La porte de saloon, il faut que ça ressemble plutôt à un truc d'église que de... et puis voilà, puis après on se dit, tiens, alors voilà, il y a des bouts de montagne, machin, et puis après on commence à répéter, en fait. Mais il faut qu'on sache déjà dans quelle ambiance on est, en fait. Et on travaille beaucoup en maquette, en fait. Donc on imagine, en fait, je dis souvent, il faut que les installations, elles pourraient presque exister toutes seules. Tu vois, comme une sorte de puits du fou un peu morbide. Mais
sachant qu'il y a des trucs qui ne sont pas réglés, par exemple, parce que tu vois, la porte, alors c'est vraiment l'idée de la porte de Western, donc c'est l'image, tu vois, l'icône absolue. Tu vois, même quand t'as 3 ans, si tu penses à Western, tu penses... uniquement une porte de Western, tu vois, tu penses pas forcément à un pistolet ou un truc, tu penses qu'à la porte de Western. Et dans la porte de Western, il y a un truc qui est pas réglé, parce que tu vois, t'as les cornes, puis t'as les langues. Donc, entre les cornes et les langues, je me disais, tiens, il y a un truc qui est pas mal, mais je sais pas du tout ce que ça raconte encore. Et il y a... C'est-à-dire que tu sens, c'est comme une espèce d'insigne, un peu de... Ce serait une... Ce serait pas la franc-maçonnerie, ce serait la
cobaillerie.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'inventer une tu vois, peut-être un espèce de secteur qui serait une société secrète qui raconte tout.
Ouais, ouais.
Tu vois, à n'importe qui. Tu vois, par les... Et donc c'est vrai que c'est ça, je regardais ça cet après-midi là, quand on a. Je me dis, tiens, le sens de la porte n'est pas réglé. Mais je l'aurais peut-être réglé demain matin, tu vois.
Ouais. Et alors moi, tu parlais d'improvisation. Et je me souviens plus Oncle Gourdin. Hein, vous avez reçu pour Oncle Gourdin la dernière fois à l'émission. Mais j'ai l'impression que vous... Là, ce comédien qui improvise, alors, improvise-t-il vraiment? Je sais pas. On a beaucoup de scènes où les acteurs parlent de la scène, vous voyez ce que je veux dire, une espèce de distance comme ça, où les acteurs parlent du théâtre.
De faire du théâtre.
Ouais.
En fait, je dis souvent la question, c'est toujours pourquoi on continue à en faire, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on brasse cette question-là tout le temps de qu'est-ce que tu joues, est-ce que tu joues, est-ce que... Tu vois, l'idée, c'est d'être en train de... décortiquer l'affaire tout le temps.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir des scènes d'émotion où il y a la fausse trisomique avec le cow-boy qui vient la tringler une fois par an, lui amener des cadeaux pourris. Et on se disait, tiens, dans les westerns, il y a des grandes scènes sentimentales. Donc on se dit, il faut qu'on essaye de faire des scènes comme ça où il y a du sentiment.
Ouais,
ouais, tu vois, un truc. Et puis après, on se dit, ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'on sait tous qu'on fait des faux trucs. Donc alors on parle de ce faux truc. Mais tu vois, c'est de faire des allers-retours entre... celui qui regarde, celui qui est, et que ce soit toujours un problème de présent, qu'il y a un truc où on se dit tiens, c'est en train de se faire, sachant que tout est écrit, mais il y a... Moi, j'aime bien jouer avec cette chose-là.
C'est
quoi.
Compliqué qu'un type, par exemple, qui a près de 30 ans, joue le rôle de Spider-Man en croyant qu'il faut se mettre dans la peau de Spider-Man.
Ouais.
Tu vois, et c'est vrai qu'il y a l'idée de se mettre dedans, l'idée de pouvoir, incarner. On a comme un doute.
Là-dessus. Ouais.
Déjà, vivre, c'est assez compliqué. Ouais. Alors après, c'est vrai que le vrai et le faux, le dupe, non-dupe... plus précisément et sans arrêt convoqué, et c'est pour ça que les questions qui se posent sont artistiques en fait. Parce que l'art n'a fait que ça.
Après moi, la dernière, enfin, quand on vous avait reçu, je crois qu'on vous avait accueilli, enfin moi je vous avais accueilli en vous disant que je m'intéressais pas au théâtre. Depuis ça a un peu changé, donc je m'intéresse au...
on a complètement raté notre projet.
Tu aimes beaucoup le théâtre en fait. Bon, non, j'irai pas ça.
Faut pas exagérer.
Faut pas déconner. Non.
Mais je... libertaire, c'est du coup. Je crois au théâtre. Ouais,
par contre, j'ai lu des trucs sur le théâtre militant et voilà, il y a des trucs bien. Mais... Et moi, le fait. Enfin voilà, ça m'évoque ça un peu parce que je suis
en train de lire
ces trucs-là. Là. Et le fait que les acteurs parlent du théâtre, il y a une espèce de distance qui fait que. Parce qu'une des critiques du théâtre militant, c'est de dire bah ouais, mais. Voilà, on reste spectateur et ça reste que du théâtre et c'est, ça s'adresse à la bourgeoisie et c'est Augusto Ball qui parle de bah, que le spectateur est moins qu'un homme, il dit ça. Le spectateur est moins qu'un homme, moi j'aime bien les phrases comme ça. Le spectateur est moins qu'un homme. Et... Ouais.
C'est bien ça, Augusto Ball, il était à Roussimar.
Mais je sais pas, non, mais, et puis alors dans la pièce, il y a un moment où il y a des acteurs qui parlent du théâtre militant. Bon, voilà, attends. Et j'aimerais savoir votre point de vue par rapport à ça.
Ben moi, je pense qu'on est très engagés en fait, dans un. Tu vois. Et je dis souvent, il y avait un vieux trou du cul de directeur de théâtre en Allemagne qui disait Je vois pas l'engagement. Mais l'engagement, c'est pas de parler de politique. C'est-à-dire que l'engagement, c'est que les spectacles, ils ressemblent à une manif, en fait. Mmh. Tu vois, il y a cette chose-là, du pamphlet, de la... Tu vois, quand il dit « Je dédie ce spectacle à Bobby Sand », alors évidemment, on voit d'où ça vient. Mais après, quand il dit... l'autre, elle lui dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Puis l'autre, il dit « Attends, mais c'est bien le théâtre engagé. » Et on le pense. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que ça aussi, ça, tu vois, que cet engagement-là, et même dans des compagnies un peu typiques, folklore des années 70, enfin, il y a dans ces moments-là des choses qui ont été vraiment inventées. Il faut qu'il y ait cette fureur, donc je pense qu'il y a cet engagement-là. Et après, tu peux mettre une trisomique ou une orpheline qui a des grosses dents, et ça parle d'un truc comme ça qui te... Tu vois, ça parle de la horde, ça parle de leur engagement, ça parle du choix, ça parle de la vie dans le groupe, ça parle de plein de trucs comme ça, quoi.
Après, c'est compliqué, ces histoires.
Ah ouais,
oui. Parce que, comme disait Gombrowicz, un mec qui vient de monter tout en haut de l'Everest, on lui demande pas forcément pour qui il vote, tu vois. Et c'est vrai que l'engagement fondamental, il est de l'ordre d'une espèce de passion qui est beaucoup plus irrecevable qu'on peut l'imaginer. Et la grande difficulté, c'est de pouvoir... alors le militantisme, c'est souvent... c'est à la fois fondamental et complètement désespéré. Donc, quand la passion est triste à ce point-là, c'est vrai que la grande difficulté là-dedans, c'est de pouvoir réussir à être compris tout en fermant sa gueule. Tu vois. Et ce serait la parade ultime du militantisme, mais c'est très difficile ça.
C'était Cancan, musique de Xavier Boussiron, extraite de la bande originale de la pièce Prélude à l'agonie, dont il est question aujourd'hui dans Les Oreilles Libres, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Eh bien, on continue avec l'interview de Sophie Pérez et Xavier Boussiron. Par rapport à ce que tu dis, alors bon, c'est des trucs, des conneries d'internet, donc je sais pas si c'est des vrais trucs ou quoi, mais j'ai lu. Vous parliez de joie et de mort, c'est vrai, c'est vous qui dites ça, vous avez...
oui,
et de kitsch également. Parce que...
Ah, c'est les autres qui parlent de kitsch.
Moi, je parle de joie. Moi, je parle de joie.
Moi,
je parle de mort.
Le reste m'intéresse pas du tout. Je n'aime que la joie.
On commence par quoi, la joie, la mort.
La mort en rigolant, tu vois.
Ouais. Non, c'est vrai que...
Mais le kitsch, on n'en parle jamais, nous, parce que...
Non, mais la difficulté de... Et je pense que la pièce raconte bien ça, c'est-à-dire que le sermon... écrit par Pacôme à la fin, et une espèce de renversement, c'est-à-dire que dans la alors, ce serait pas très très clair, mais dans la grande tradition de l'initiation, c'est vrai que souvent l'idée c'est de faire le chemin à l'envers, et le chemin à l'envers ce serait de passer par la parodie plutôt que d'aller directement vers un but précis. Et c'est vrai que la parodie te permet à la fois d'être dans un état de critique, dans un état de refoulé et dans un état de clairvoyance. Et c'est vrai que ça fait que ça fait que la forme, alors il y a tout un tas de domaines hein, dans lesquels c'est... Y a des, même dans la science, ça existe. Ça. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'expérimental, c'est plutôt une sorte de mentalité. Et on a un fonctionnement qui est celui-là, c'est-à-dire que c'est plutôt de faire accélérer les particules, ouais. Et puis plus tu accélères les particules, tu regardes si au bout d'un moment ça peut apporter de la joie, ça peut faire rire, et s'il peut y avoir de la mort aussi.
Ouais.
Donc, mais il n'y a pas un...
Non, mais en vrai aussi,
Il y a un doute. Moi, j'ai vraiment un gros doute sur l'idée de l'importance, quoi. Vraiment, vraiment.
Ouais. Alors,
c'est pas pour être un hippie, hein, c'est le contraire de ça. Je pense que les hippies, ils nous l'ont mis bien profond, tu vois. T'as eu un hippie, puis après, t'avais Nike. Donc, nous, on est plutôt le contraire de ça.
Oui, et justement, je me pose la question, comment vous êtes perçu par le milieu, parce que...
Comme des gens très bien élevés.
Non, c'est pas. Ça va mieux. Non, mais il y a des gens qui détestent vraiment ce boulot-là, clairement. Mais c'est très. Moi, je dis souvent, c'est comme un groupe de rock. Tu vois, on a des fans. Mmh. Et puis on a des. Ouais. Il y a vraiment ce rapport. Quand tu acceptes cette chose-là, mais il y a des gens pour qui c'est pas possible.
Ouais.
Vraiment, mais comme.
On vous verra à Avignon ?
Non,
peut-être,
ouais.
Pourquoi pas ? On est allé à Avignon avec Concours Bourdin, tu vois. Mais peut-être, je pense que Pi, ça peut l'intéresser.
Ouais.
C'est un type très joyeux, Pi. Cabaret, machin, tout ça.
Ah oui, j'ai vu ça.
Les voilettes, tout ça. C'est...
Ouais.
Non, mais c'est...
Mais vous êtes quand même un petit peu hors norme.
Ah oui, oui.
Oui, quand même un peu.
Bah, je pense qu'on a... Oui, on a inventé une sorte de chose.
C'est pas difficile en même temps.
Et c'est essayer de la norme. Je m'intéresse un petit peu au théâtre d'une façon bizarre en ce moment.
Ouais.
Et voire professionnel. Et justement, je me demande comment les choses hors normes arrive à être financé, là on parle. Est-ce que le financement tel qu'on le connaît, qui est pas si mal finalement,
ouais.
Parce qu'il y a quand même moyen de faire des trucs.
Ouais, bien sûr.
Mais est-ce que moi, quand je discute avec certaines personnes, certains organismes, on se rend bien compte que c'est. Il faut plaire à des gens quand même.
Bah, si tu veux, moi au début, le début de la compagnie, déjà, quand j'ai fait les premières pièces, les gens pensaient que j'étais italienne ou belge, parce que ça pouvait pas être français, un boulot comme ça. Et puis après, ça passe que par des gens, et notamment, ça a commencé avec Ariel Goldenberg, qui était le directeur de Chaillot, à l'époque, et qui est un mec super engagé, argentin, c'est un mec d'enfer, tu vois.
Et c'est des gens qui ont permis le boulot d'abord. Mmh. Tu veux, maintenant on est une compagnie conventionnée, mais on a eu le conventionnement au bout de 12 ans. Ouais. Tu vois, on l'a pas eu au bout de 2 ans, hein, comme certains, ou 3 ans. On l'a eu au bout de 13 ans. C'est-à-dire qu'au début, c'est des gens qui ont aimé ce boulot. Des vrais programmateurs, tu sais, comme il y avait des galeristes mmh. avant. Des mecs ah oui, qui ont aimé ce truc et qui se sont dit putain ça c'est à... Et c'est ces gens-là, et pas les moindres bizarrement, c'est-à-dire que tu vois Ariel c'est quand même le mec qui a fait venir Pina Bausch, Bob Wilson, et c'est, tu vois, des vieux de la vieille quoi, et au début ceux qui nous ont soutenus c'était... Et tu vois, parce que les gens oublient, mais tu vois il y a eu Living Theatre, il y a eu Cantor, il y a eu... Enfin tu vois, des mecs qui ont brassé, il y en a eu quoi, et bizarrement au début ça a été des gens plutôt... Ouais, des vieux de la vieille du métier qui ont vu ce boulot-là et qui l'ont aimé, enfin qui l'ont vu, qui ont trouvé. Mais c'est passé que par des choix de.
Le programmateur.
Ouais, mec, ouais, ouais. Et qui sont au bout de 10-15 ans toujours là, quoi. Ouais. Tu vois, ça va de Serge Laurent à Beauvau, maintenant il y a Jean-Michel ici, mais c'est vraiment des gens qui ont soutenu le boulot. Et après, les organismes, quand ça fait 15 ans que tu bosses, bah, tu vois, il y a un moment, il faut que ça suive, quoi. Tu vois, parce que c'est toujours les mêmes acteurs, on est une compagnie, on est une douzaine à bosser tout le temps. Donc au bout d'un moment, mais si tu veux, moi j'ai fait les premiers rendez-vous à la DRAC que je démarrais. Tu vois, les mecs ils m'ont dit c'est quoi votre texte et tout, j'ai dit bah ça me regarde pas quoi. C'est... Et tu vois, au début je me suis dit ça va pas le faire, ça va pas être possible. Et du coup, c'est que des gens qui ont permis au boulot d'exister.
Ouais.
Tu vois, et après tu fais les dossiers. Maintenant nous on a beaucoup ri à faire des dossiers hein. pour tous ces trucs là, mais... mais au début c'était bien sûr sans l'institution. C'était des mecs particuliers dans. Qui dirigeait des théâtres quoi.
Mmh. Et après ça te rôde, c'est bien aussi.
C'est bien ce qu'on parlait de ça parce que.
Faut apprendre à réussir à comprendre comment tu veux bosser aussi.
Ouais.
Parce que des fois, tu vois, le... il ne s'agit pas que ce soit de la gâterie ou. Mais c'est vrai qu'il.
Tu en laisses ça en compte au niveau de la création, tu te dis ah.
Non, je pense que ce qu'il devrait faire, il devrait faire une loterie pour une certaine. Ils font une loterie, puis tu tires un numéro, et puis tu vois, ils proposent ça à 4000 mecs, et sur les 4000 mecs, t'en as 200, mais vraiment que ce soit comme une loterie. Juste pour voir si des mecs comme ça, par hasard, pourraient réussir à faire un truc. Puis s'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave, et puis on passe à une autre fournée. Ouais. Puis après là-dedans, t'as des choses qui sont bizarrement plus professionnelles, plus acérées, tu vois.
Mais par contre, pour répondre à ta question, tu te poses jamais la question de est-ce que ça va plaire, parce que nous, tu vois, on était comme un furoncle, quoi. Et en plus, dans ce milieu qui est plutôt... tu vois, en général, t'as été l'assistant d'un metteur en scène, enfin, tu vois, moi, j'étais la fille de personne.
Ouais.
T'arrives et tu t'es comme un... Vraiment comme un cheveu sur la soupe, on se demande d'où tu sors, quoi. Et donc ça a été vraiment la bataille. Et moi, il y a plein de fois au début, je me suis dit, ça va pas le faire, quoi. Et puis après, tu rencontres un mec, un autre type, quelqu'un qui... Et tu vois, c'est vraiment de l'humain, en fait. C'est vraiment des gens... Voilà, puis il y a une histoire de je te dis, de culture aussi, ce que des mecs ont... Il y en a eu, hein, mais on oublie. Hein, mais c'est vrai qu'on a inventé ce machin et qu'il y a des gens qui aiment bien. Donc, ouais, c'est... Donc c'est quand même...
Alors on va écouter un extrait du fameux monologue de Stéphane Roger. Alors le propos c'est que les metteurs en scène lui ont demandé d'intervenir dans la pièce sans lui donner de texte. Ils ont eu la flemme de lui faire un texte. Et donc il ronchonne, enfin il n'est pas content, mais bah, voilà, il est là et... soi-disant, il improvise, il fait un peu n'importe quoi. Et ça donne lieu à une scène vraiment, vraiment très, très drôle. Alors, on va entendre les crépitements des flashs. Encore une fois, on est dans la générale de presse avec tous les photographes. Et on était assez peu dans la salle, mais on nous entend rire. Et ce qui est marrant aussi, c'est que on entend Sophie Pérez, qui est quand même la metteur en scène de la pièce et qui a dû voir... qui a assisté à toutes les répétitions, qui a dû voir cette scène à je ne sais pas combien de fois, et elle est morte de rire, et ça je trouve ça super. Donc Stéphane Roger dans un extrait de Prélude à l'agonie de Sophie Pérez et Xavier Boussiron.
Ha ha ha! Oh putain, c'est chaud. Je peux faire ça pendant des heures. Ouais, la foutre, de toute façon. Et mettez en scène, enfoiré. Vas-y, de toute façon, tu rentres, tu t'improvises. Moi, je... La foutre, je suis là. Et je vais vous faire un truc que j'aime bien. Oui, je fais souvent. Non, 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 non. Non, Maria Riquet. On va faire ça. Non, 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 non. Non, Maria Riquet. Non, 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 non. Non, Maria Riquet. On va faire ça. On va faire ça des heures. Non, 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 non. Non, Maria Riquet. Non, Maria Riquet. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, Maria Riquet. Un autre truc aussi que j'aime bien. Une fois, vous serez Xavier, un des metteurs en scène. Il est arrivé avec une chemise verte, un drôle de vert, et lui a dit oh, t'as mis ta chemise verte, t'as peu là, non. Et là, ça. Rien à faute, pour rester là, bien sûr. T'as mis ta chemise verte, t'as peu là, olive verte, hein. Non, 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 non. Non, on marche au skate. Hé, petit. Alors, c'est le bon. Hé, petit. Hé, c'est Zati Smith. Hé, 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 you. Pas la tête, ça. Non, ça, les heures. Hé, hey, you. Mais je vois l'air. Voilà. Hé, hey, hé, t'as vu ta chemise, t'as pas là, non. Tiens, pas quoi faire. Je vais vous raconter le spectacle. Bon, pas le début, vous l'avez vu, jusqu'à maintenant. Alors, je vous le donne en mille. Qui va arriver après, à votre avis? Sophie Lenoir, 50 balais, c'est toujours la même chose. Lève la jambe. Alors là, la surprise, c'est qu'elle arrivait avec deux cancaneuses. Donc, elle arrive avec deux cancaneuses. Lève la jambe, vous allez voir, elle est maquillée comme un... comme une bagnole volée. 52 balais, je crois. Et je sens pareil, elle chante, elle lève la jambe, et elle est... Là, elle fait une comédie musicale il y a pas longtemps. À Rouen, il y a toute sa famille. Sophie. Alors ça, c'est le début du spectacle. Ensuite, tous les personnages masqués, c'est moi qui les fais. Il y a Dédé. Dédé qui a été créé par Pascal Grégory, monté en scène par Chéreau, en 73 à Nanterre. Et cela, là, c'est moi qui reprends Dédé. Dédé, il fait « Ah, c'est ma tête !» Et ma puce. Après, il y a la trisomique, vous verrez. Irma, c'est moi qui le fais. Je fais le cow-boy et la trisomique. Je fais les deux. Et puis à la fin, il y a Gilles qui devait faire le prédicateur. Et qui arrive. Il n'y arrive pas, alors c'est moi qui vais le faire. C'est pété la jambe, alors ça, c'était compliqué. Voilà. Non, 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 non. Non, mariage gay. Et puis oui, il y a un autre, alors, l'arrivée de Marlène Saldana. Elle va arriver avec un... La surprise, c'est qu'elle avait un cheval mort sur la... Elle arrive avec un cheval mort. Elle a eu une phrase à dire, elle n'arrive jamais à la dire. Elle dit, je vais vous faire. Elle dit, c'est les bons moments qu'on a passés. Et encore, je vous fais bien, là. D'abord, avant Marlène, il y a Françoise qui arrive. Alors elle parle, mais en général, il y a les portes battantes, vous allez voir. Elle parle en même temps, on ne comprend rien. Et regardez bien la perruque de Marlène, enfin elle a peut-être changé là, mais regardez bien les racines. Bon, oh, elle a foutre. Ah non, 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 non. Non, on m'a esqué. Ah, les gars, la cacherie, je tape là, là. Là, je vais faire un autre truc, tiens. Oh, j'ai chaud, enlevez ça. Tiens, frère Rémi, je crois. Tu peux éteindre les phares de bagnole, allume la portière. Je vais faire un autre truc. Et les bons moments qu'on a passés d'ailleurs avec le cheval. Ridicule. Et puis, enfin bon. Sophie Lenoir, regardez bien le maquillage.
Oh, allez, rhabille-toi, Stéphane. Les girls, elles arrivent et puis elles ont du texte.
La musique, le rôle de la musique, parce que t'es quand même un musicien, Xavier.
Ouais.
Donc, Comment tu fais par rapport à la musique, tu la conçois avant? Est-ce que ça, comment ça marche par rapport au...
Non, c'est comme le reste, c'est-à-dire que tout se conçoit un peu dans le même dans le même bloc. Mmh. C'est-à-dire que généralement toutes les répétitions se passent en musique.
Ah ouais.
Et les musiques, c'est des musiques préexistantes qui sont qui font partie du kit de démarrage du boulot. Et t'essayes, tu vois, les comédiens sont en train de s'entraîner, de faire des choses, de trouver des trucs, et puis tu mets des musiques différentes, et puis tu dis tiens, ça c'est pas mal. Et il y a deux secteurs dans la musique, souvent il y a des espèces de copies de mémoire, comme je dis tout le temps, il y a des choses qui sont comme des éléments qui partent de choses préexistantes, et qui sont plus ou moins copiées et réinterprétées. Et puis au milieu de ça, t'as des trucs qui débarquent, qui sont trouvés, qui traînent et qui servent pour les choses.
Parce que là, tu joues en fait sur scène.
Ouais.
Avec
Marie-Pierre Brébant, qui est mon acolyte depuis longtemps, puis qui a souvent travaillé avec le Zerep aussi, qui est claveciniste baroque.
Ah d'accord.
Oh. Ouais. Elle est claveciniste baroque. Ouais. Et on bosse ensemble souvent. On va faire un disque ensemble sur Bartok là.
Ah ouais.
Ouais. Et donc c'est vrai que la musique c'est un élément assez déterminant, mais.
Ouais, je voyais Sophie danser à la fin de. Tu dansais avant?
Non, je m'énervais parce qu'ils allumaient pas le.
Tu dansais pas?
Non, je dansais pas. Ouais, ça... Je m'énervais parce que je voulais qu'ils allument.
Ah oui, mais étant donné que la convocation de tous les artifices est mise en branle dans les spectacles, c'est vrai que ça joue pas dans le retranchement, ça joue plutôt sur l'accumulation. Et c'est vrai que la musique c'est un masque parfait pour faire croire aux gens qu'ils ont des sentiments.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée au spectacle Prélude à l'agonie de Sophie Pérez et Xavier Boussiron. Nous venons d'écouter une musique donc composée par Xavier Boussiron et qui me fait furieusement penser aux musiques d'Ennio Morricone qui composait pour les westerns de Sergio Leone. Et il est question de Sergio Leone dans le texte que l'on trouve sur le site du Théâtre du Rond-Point et qui explique un petit peu le spectacle, si tant est qu'on puisse l'expliquer. Hein, j'ai un petit peu de mal, moi, à l'expliquer. Et voilà, il y a un petit pitch, comme on dit maintenant, sur le site du Théâtre du Rond-Point où il est question de ce que disait Sergio Leone lorsqu'il fabriquait ses films. Et ses propos sont repris par Pérez et Boussiron. Eh bien, je vous propose d'écouter la fin de l'interview des deux metteurs en scène. Je voulais, je vais pas dire des confrères parce que je ne suis pas journaliste, et je m'en flatte. Et je vais vous dire un extrait de La Vie. Vous savez La Vie, c'est un site internet.
Ouais.
En bon temps, on peut voir Jésus maître de prière. Ça termine par « Il faut à ces artistes, vous deux, il faut à ces artistes une tendresse immense pour dresser du monde un aussi terrible portrait sans que jamais la méchanceté gratuite ne l'emporte sur l'amour de son prochain. »
Ouais. Bah moi je suis entièrement d'accord avec ça.
Ouais.
Ouais.
Oui, moi aussi, ouais.
Mais je préférerais toujours l'amour de mon prochain que la méchanceté gratuite.
Ouais, ouais.
Et je trouve que c'est un acte d'élégance absolue.
Bien sûr, la gentillesse, moi
je dirais. Non, je te parle pas de gentillesse. Hein. Ah. Je te parle pas forcément de bons sentiments. Je te parle juste de l'amour de ton prochain. Sachant que souvent il est plus faible que toi.
Mmh.
Et donc il faut avoir de l'égard pour les gens qui sont plus faibles que toi.
Alors je dis ça parce que moi je suis surpris hein, que ce soit La Vie qui dit ça, et tant mieux, hein, vraiment tant mieux effectivement. Mais il y a quand même une scène avec une. Justement, on t'en parlait de. Avec la trisomique là. Et moi en voyant ça, moi, j'ai bien aimé, quoi. Puis ça me touche et puis en même temps ça me fait rire. Et je me dis, mais putain, ils vont se faire emmerder avec ça. Quoi. Non. Mais visiblement non, parce que.
Ben non, justement, parce que tu vois, la tendresse est plus forte que.
Elle est super, elle l'attend, tu vois, puis lui il traverse tout le désert, il vient la troncher une fois par an, puis il est trop lâche pour l'emmener en ville, tu vois, alors il lui fait des cadeaux pourris, puis il assume pas du tout, mais c'est un truc qu'on connaît ça en même temps, tu vois, tu vois, sa lâcheté personnelle, ça, tu vois, la honte. Et on a un copain artiste qui s'appelle Olivier Blancard qui disait « Être artiste, c'est boire le verre de la honte ». Et je trouvais ça assez beau parce que dans la scène avec la trisomique, moi, ça me fait rire. Tu vois, il lui ramène une godasse parce qu'il est mal vu en ville. Alors, il n'ose pas lui ramener. Il n'a pas osé demander la deuxième chaussure de la paire de godasses. Mais puis elle est là, elle l'aime. Puis il va l'aller.
Je pense que c'est surtout lui qui l'aime. Mais tu vois...
Non, elle aussi, elle
l'aime. Elle est triste,
hein.
Ouais, on va pas dire ce qu'il fait.
Mais elle aussi, elle l'aime, elle l'adore.
Mais comme il est complètement inapte à lui.
Immature, lâche.
Il est complètement, dans la panade avec le langage, avec le truc, avec le soin, avec l'attention. Son problème, c'est qu'il est mal vu en ville. Donc
mais nous aussi, on n'arrête pas de dire qu'on est mal vu en ville.
Il essaye de coordonner toute sa cosmogonie sentimentale autour du fait qu'il soit mal vu en ville.
Mais moi je dis souvent de se sentir étranger au monde en général, c'est une vraie chose qui nous rallie tous, puis avec plein d'autres gens. Tu vois, l'idée de. Donc pour moi, que ce soit les petits acteurs, la fausse trisomique, enfin tu vois, c'est l'idée de. Ouais, d'être étranger au monde. Moi, tu vois, je rentrais chez moi, j'ai l'impression d'être un nain noir au chômage. Mais tu vois, ce sentiment d'être d'être pas là où il faut, enfin, c'est compliqué tout ça.
Ouais.
Et ça parle de tout ça, de la place aussi,
Ouais.
Ça parle de l'animal, de la beauté, de la place que tu prends, de la.
Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit bien tout ça, ce dont tu parles. Quoi. Et ça fait rire. Quoi.
Ouais.
Ça fait rire. Ouais,
c'est... Bah ouais, mais c'est drôle en même temps.
Ouais.
Tu vois, des catastrophes. Moi, je. Nous, on rit beaucoup, hein.
Ah bah oui. Et alors, peut-être, on va dire de quand à quand ça se passe où.
Ah oui,
et après où.
Alors là, c'est du 16 au 25 janvier au Théâtre du Rond-Point. Ensuite, au mois de février, on sera à Lausanne, à l'Arsenic. Après, en avril, on sera à Orléans. Et voilà, en espérant que ça reprenne à la saison prochaine.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Est-ce que vous avez des projets des trucs en construction?
Ouais, on commence au printemps les répètes du prochain spectacle. On a juste le titre, ça s'appelle Biopics. Parce que tu sais, il y a plein de biopics. Et donc voilà, on a le titre.
Bon, bah, très bien. Titre, un décor,
la musique. Voilà.
Bon, on va vous laisser aller manger un bon burger. Bah merci beaucoup,
merci
beaucoup d'être venu.
Merci, c'est super.
Et puis à la prochaine fois.
Bah ouais.
C'était Resilience City, extrait du spectacle Prélude à l'agonie et composé par Xavier Boussiron. Alors, il était question de théâtre dans Les Oreilles Libres aujourd'hui sur Radio Libertaire. Occasion pour moi de vous dire un tout petit mot sur ce qui s'ouvre aujourd'hui, hein, les négociations, les renégociations de l'UNEDIC et notamment des régimes de l'intermittence. Hein. Et notamment des annexes 8 et 10, l'intermittence 10 ans après 2003 qui est à nouveau attaquée, hein, ils veulent liquider ce régime, hein, c'est clair. Et y a des mouvements qui sont pour l'instant initiés par les syndicats. Hein, bon, pour une fois, on va pas s'en plaindre, hein, pour une fois que c'est les syndicats, ces syndicats-là tentent de défendre les salariés. Hein, moi, je connais des syndicats qui encourage les salariés à se taire. Bon, là, c'est pas le cas. Mais bon, voilà, il faut aussi que la base, que les salariés de ces secteurs professionnels, hein, de la culture, se mobilisent. Et puis aussi les spectateurs, hein, les usagers, comme on dit, de la culture. Hein, nous tous, on est concernés. Et donc, il faut, je pense, moi, s'intéresser à ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir, hein, des velléités de mouvement. Et donc, tout ça, on peut le retrouver sur Internet, sur divers sites. Hein, intéressez-vous à ça, parce que là, je crois que c'est... La culture est en danger.
Voilà, qui est dit. On va terminer, nous, bah, il nous reste un bon, pas mal de temps. On va diffuser de la musique et je vous propose d'écouter Tissi Tchatsi.
Adas tu dus tas dus tas adas tu dus tas dus dus tas adas tu dus adas tu dus tas adas tu dus tas dus dus tas adas tu dus tas dus tas adas tu dus tas dus dus tas adas tu dus adas tu dus tas adas tu dus tas dus dus tas tas tu dus tas tu dus tas tu dus tas dus dus adas tu dus tas dus Adas tu dus, das dus dus, das adas tu dus, adas tu dus, das adas tu dus, das dus dus, das das tu dus, das tu dus, das tu dus, das dus dus. Antilope, adax, adas tu dus, das dus, das adas tu dus, das dus dus, das adas tu dus, adas tu dus, das adas tu dus, das dus dus.
Ichthyosaurus, Mosasaurus, Plesiosaurus, Loch Ness questions. Bacillosaurus, Elasmosaurus, Mixosaurus, Loch Ness illusions. Triosaurus, Danistrophus, Tylosaurus, Loch Ness, horrible dreams. Hydra, Monstrosa, Homunculus, Homosaurus, Homodino, John Paul, McMegalosaurus, Loch Ness questions. Factum, masculinum, femininum, neutrum, quantum, singularis, pluralis, questions, quis, cuius, cui, quem, quo, cum, quid, cuius, cui, quid, quacum, agadalagedahü, factum, masculinum, femininum, neutrum, quantum, singularis, pluralis, questions, quis, cuius, cui, quem, quocum, quid, cuius, cui, quid, quacum, Ichthyosaurus, Mosasaurus, Plesiosaurus, Loch Ness questions, agadalagedahü,
Alors nous venons d'écouter Adax et Loch Ness Questions de Tissi Tchatsi, extrait de leur dernier album Eldorado, qui est sorti il y a plusieurs semaines déjà. Tissi Tchatsi, le groupe tchèque de Petr Vacha, Thomas Frolich et Petr Zavadil. Je vous propose maintenant d'écouter le portrait de Dora Maar, extrait de la cassette Un objet de plaine par la Société des timides apparats des oiseaux, la STPO, un groupe mythique de Rennes qui va fêter en 2014 ses 30 ans. Et nous allons nous intéresser à Rennes dans les quelques minutes qui nous restent à passer ensemble.
Dora Mark Laksa sbora i drejty. Sul Dora, melum le mar, sur presti ishti vishti, milken melo bor.
Les photographes, Dora Mark était très apprécié des cercles surréalistes.
Pili, pila vélo, pil di, pil caltel poc, osso.
Elle fut présentée à l'assaut par Paul Éluard.
Sera, traité Goljov d'Imraj, Grijov, tu vas.
Je connaissais bien Dora Maar, une femme fascinante. Il me fallait la peindre. Ses jambes, ses hanches, ses seins.
Escancelli d'ora,
d'ora,
escancelli d'ora,
d'ora, d'ora, ma,
d'ora ma, laxa, spora il treno,
d'ora, ma,
d'ora, Markovic,
d'ora, d'ora, ma,
d'ora, Mark, laxa, spora il treno,
d'ora, ma,
escancelli d'ora.
Voilà, c'était la Société des Timides à la Parade des Oiseaux. Et je vous propose de continuer avec un focus sur Rennes, la capitale de la Bretagne. Alors, c'est pas pour rendre hommage aux bonnets rouges, hein, dont on se contrefout. Les petits contribuables et tout ça, c'est pas notre propos dans notre émission, et sur Radio Libertaire non plus d'ailleurs. Mais il se trouve que quand même à Rennes, il y a une scène tout à fait intéressante. Je vous propose d'écouter un jeune groupe de math rock, comme on dit. Alors on n'est pas fan de définition, mais voilà, vous allez écouter, vous saurez ce que ça veut dire math rock. Il s'agit de Totoro. Voilà, notre émission touche à sa fin. La semaine prochaine, nous recevrons Amaury Cornu, spécialiste de Moondog. Il sera question de Moondog. Eh bien, je vous propose de nous quitter en compagnie du duo Mine Son William, un duo rennais, et le titre du morceau, c'est Until the End. C'est the end de l'émission. À la prochaine. Salut!
Eat some shit, sleep, eat sack, ride, play football, stop.